Bonjour mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs en Christ, je vous salue. Chers auditeurs, chères auditrices, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient sur vous en ce jour encore. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre la série que nous avons commencée sur élargir l'espace de ta tente. Nous avons déjà parler, préparer, commenter le premier verset de ce texte d'Ésaïe 54 que le Seigneur a donné en cette saison. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec le verset 2, l'étude du verset 2. Avant cela, nous allons ensemble remettre ce moment de partage à l'Éternel Dieu notre Père. Prions, Père éternel, Dieu de gloire, de paix, toi le mighty God, oh Papa, merci. Merci de cette opportunité encore que tu nous donnes d'être en ce moment dans le service au Père. Merci d'être en ce moment encore assemblés dans le nom de notre Seigneur Jésus pour œuvrer pour le royaume de Dieu. Père, me voici à mon poste, me voici au Père éternel, prête à partager mon pain avec ceux qui ont faim selon ton instruction. Nous voici encore, Seigneur, obéissant aux instructions que tu me donnes. Mais que puis-je faire toute seule? Rien, car par moi-même je ne fais rien. Saint-Esprit de Dieu, mon ami, viens. Viens prendre contrôle de tout. Toi qui connais avec précision et exactitude la pensée de Père, les projets que Père a pour ses auditeurs, ses auditrices qui nous écoutent, son peuple, et ce qu'il veut libérer. Viens et parle par ma bouche. Viens et prends contrôle de ce moment, de ce temps, de ce partage. Viens et parle toi-même. Libère la pensée de Père. Dans la grâce, glorifie Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que sa vie soit portée par ses paroles et que ça donne vie à tous ceux qui l'entendent. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous disons que nous avons reçu de la part de l'Éternel des instructions fermes sont élargies l'espace de ta tente. Et je disais que au cours de mon travail pour percevoir, pour saisir vraiment cette instruction dans sa profondeur, j'avais pris conscience de l'étendue, de la largeur, de la grandeur, de la profondeur de ce que l'Éternel veut faire en cette saison. Et c'est un peu l'ensemble de ces révélations que je voulais partager avec vous. Donc nous avons commencé ce travail depuis deux messages déjà. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre avec la deuxième partie. Nous savons que ce texte d'Ésaïe 54, nous l'avons réparti en six. Nous avons six parties que nous allons étudier. Nous avons étudié la première qui concernait le premier verset, « Réjouis-toi ». Nous avons compris le sens de ce qu'est se réjouir dans le royaume de Père et le sens des mots « allégresse » et « joie ». Et nous avons cerné vraiment la recommandation que Père nous donnait sur la nécessité de faire éclater notre allégresse et notre joie. Nous avons pris la dimension de ce qu'était la nécessité d'avoir la nature joyeuse de Christ en nous pour pouvoir favoriser, pour pouvoir ouvrir comme ça le bouchon de la grâce qui était préparé pour nous, pour pouvoir avoir accès profondément à l'héritage qui nous est destiné, pour pouvoir avoir comme ça l'onction nécessaire pour élargir l'espace de notre tente. Aujourd'hui, nous allons véritablement prendre connaissance de l'instruction que Père nous donne. Nous allons lire le verset 2. Élargis l'espace de ta tente, me dit l'Éternel. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Je disais l'autre jour, quand je lis ce verset, dans son ensemble, c'est comme si c'était une seule phrase. Parce qu'il n'y a pas de point. Vous savez qu'en français, on nous apprend que une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Voilà. Et ici, c'est une succession d'instructions, mais il n'y a pas de point. Élargis l'espace de ta tente, point virgule. La même pensée continue. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, deux points. La même pensée s'explique. Ne retiens pas, point d'exclamation. Allonge tes cordages, virgule, et affermis tes pieux, point d'exclamation. Ça veut dire que même jusque-là, l'instruction n'est pas encore terminée. Mais c'est la première partie de cette instruction. Donc nous avons toutes ces petites instructions qui rentrent dans l'instruction principale, qui est le verset 2. Et c'est ça que nous allons voir. Nous allons voir ces différentes parties. Il y a plusieurs messages, je crois que ça se regroupe dans, il me semble, trois messages. Oui, véritablement, parce que la profondeur, la pensée, la compréhension est vraiment profonde et pour pouvoir la saisir dans son ensemble et pouvoir mettre en application ces instructions, il vaut mieux les comprendre. Donc, on prend le temps de vraiment décortiquer ça pour comprendre cela. Je vais encore juste préciser que notre procédé de travail est le même. Nous allons prendre un verset et nous allons aller comprendre le sens des mots, comprendre le sens de l'agencement de ces mots et comprendre le sens de la pensée de ce qui nous est dit. Et nous allons nous faire une idée beaucoup plus large, beaucoup plus profonde de ce que l'Éternel voulait dire quand il inspirait cette parole à ses serviteurs pour que cela nous soit transmis encore au jour d'aujourd'hui. Voilà, ça va nous aider à avancer. Parce que je disais encore, on peut recevoir plein d'instructions de Dieu. On peut même entendre audiblement Dieu nous dire des choses. Mais si on ne va pas chercher à comprendre véritablement le sens de ce qu'il a dit, on ne saura pas mettre en application. On ne saura pas transformer cette instruction au-delà de l'obéissance que nous voulons avoir, qui relève de notre volonté. Nous ne saurons pas passer à la phase de la mise en pratique, de la veille même seulement à cette instruction. Parce que Dieu dit, ceux qui obéissent à mes commandements, qui les observent et qui les met en pratique, voilà, je ferai ceci, je ferai cela pour eux. Donc, il y a trois niveaux dans vraiment une exécution des instructions de Dieu. Il y a le niveau de l'obéissance, il y a le niveau de l'observance, qui est aussi tout un travail qui est différent. Il y a le niveau de la mise en pratique, et ça, ce n'est pas le moindre. Donc, c'est important de pouvoir aller dans la connaissance pour pouvoir avoir les éléments suffisants pour pouvoir déployer ces trois niveaux d'exécution d'une instruction divine. Voilà, mes frères et mes sœurs, on va commencer. Élargis l'espace de ta tente. Nous allons commencer par là. Ça, c'est l'instruction majeure. Trois mots composent cette phrase. Élargis, espace, tente. Moi, je dis toujours, on peut avoir l'impression comme ça de dire, mais c'est des simples mots, on comprend quand même ce que c'est. Mais vraiment, je vous assure, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas se fier à ce que l'on a l'air de lire là, comme ça. Vous vous en rendrez compte. Prenons élargis. Élargi, c'est le mot rachab. Ça signifie agrandi, étend, augmente, occupe. Le mot élargi. Et ça veut dire même mise au large. Donc, quand on parle d'élargissement, on va parler d'agrandissement, on va parler d'extension, on va parler d'augmentation, d'occupation. Et toutes ces phases, tous ces mots ne veulent dire n'ont pas la même matérialisation. Nous allons voir ça tout à l'heure, quand nous allons prendre ça dans le détail. Laisse espace. Nous allons prendre les deux premiers mots d'abord. Élargis l'espace et ensuite nous allons essayer de comprendre élargir l'espace de quoi. Voilà. Espace, c'est un autre mot qui signifie un lieu. Un espace, c'est un lieu, qu'il soit délimité ou pas. C'est un lieu où on se tient. La Bible définit ça comme un lieu où on se tient. Ça veut dire que ce n'est pas un simple lieu. Quand on attire l'attention sur un espace spirituellement, ça veut dire une localisation où on se tient. Et on se tient, se tenir dans la Bible, ça veut dire quoi? Ça parle d'autorité. C'est un lieu où on exerce un droit, une autorité. C'est un lieu où on est établi comme maître, comme chef. C'est un lieu aussi où on s'accomplit, ou alors on est amené à accomplir une mission. Donc, ce n'est pas seulement un lieu quelconque, mais ça nous ramène à un lieu où une autorité est définie, où on doit exercer une autorité. Ça peut être une place, ça peut être un poste, ça peut être une fonction que l'on occupe, ça peut être un lieu d'habitation, un endroit où on vit, ça peut être un quartier, une ville, un territoire, une région, ça peut être même juste une salle ou un endroit. Mais cette, la définition nous dit aussi qu'au-delà de l'espace, au-delà d'une localité, le mot espace peut définir aussi, quand on cherche le sens vraiment, je dirais toujours hébraïque du terme, ça définit aussi une direction à prendre, une distance qu'on doit parcourir, ou alors une orientation que l'on cherche, une orientation qu'on doit suivre, une destination à laquelle on veut arriver. Le mot espace qui est utilisé ici dans le droit signifie tout ça, peut prendre toutes ces composantes. Et chacun de nous, en fonction de ce qu'il est appelé à faire avec Dieu, le niveau où, d'exécution ou le niveau d'évolution de son plan avec Dieu se retrouve dans l'un ou l'autre de ces choses-là. Pour définir le lieu ou pour définir la direction ou alors l'orientation de ce qu'il va faire. Tout ça, c'est contenu dans le mot « espace ». Donc, ça se définit, en fait, comme étant une. Élargir l'espace prend une consonance, soit d'une action spirituelle, soit d'une action purement physique. Ça, les deux tendances, et nous allons voir, au fur et à mesure que nous allons comprendre, expliquer cela, vous verrez que l'on peut, ça s'appuie à la fois sur sa forme spirituelle comme sur sa forme physique. Élargir, nous avons dit que ça donne quatre notions. Donc, l'élargissement peut prendre quatre formes, nous disons. Nous allons retenir les quatre formes et nous allons essayer de comprendre le niveau, sur quelle forme, les différentes formes, l'élargissement peut avoir lieu. L'élargissement peut se faire. Comment la pensée de Dieu nous amène à voir cela. Élargissement comme étant un agrandissement. Le mot agrandissement va s'atteler, va s'affecter à une notion de territoire, là vraiment de sol, de localité. Mais ça s'appuie sur une localité que l'on possède déjà. L'agrandissement, ça affecte, l'agrandissement est ici en corrélation avec quelque chose, avec un territoire sur lequel on est déjà établi. Un territoire que l'on possède déjà. Ça peut être un champ, une plantation, je ne sais pas, une activité, un ministère, une entreprise, peu importe, une place, un lieu, un endroit, peu importe, mais qui est déjà à toi. Et la notion d'agrandissement est une notion de rendre plus vaste, rendre plus large en surface. Il s'agit dans cette compréhension d'optimaliser les espaces qui sont disponibles. Je vais prendre une illustration. Supposons que quelqu'un a une maison ou une entreprise, une boutique par exemple, et c'est son projet, et c'est dans ce projet que Dieu lui demande d'élargir l'espace de sa maison. C'est agrandi, et qu'il est dans une phase d'agrandissement. Cet agrandissement va se matérialiser simplement par le fait que la boutique, c'est-à-dire l'espace qui est occupé par la marchandise, par l'activité en elle-même, devient étroite, devient petite. Et il s'agit là de pouvoir augmenter encore les espaces, mais en restant au même lieu, au même endroit. Donc, ça va se matérialiser par trouver le moyen, bon, soit de vider certains armoires qui encombrent, parce que là, il s'agit d'avoir une gestion optimale. Ça veut dire des choses qui sont moins utiles que d'autres. Par exemple, si dans ton magasin, tu avais une table, une grande armoire qui te servait de bureau et tout, tu vas te dire, je vais enlever cette armoire, elle est trop grande, je vais mettre quelque chose de plus petit dans ce coin, et tout ce pan de mur qui était occupé par des photos, je vais l'enlever et je vais mettre des rayonnages. Ça te fait gagner déjà de la place. Ça peut aussi être que tu es au même endroit, mais tu cherches le moyen d'acquérir le magasin à côté, d'une façon ou d'une autre. Tu cherches soit la négociation, soit c'est vide, soit ce n'est pas vide, soit c'est tu vas négocier avec la personne qui était là, soit tu vas voir, tu t'arranges de façon à ce que le magasin d'à côté devienne tien. Tu casses le mur de séparation et tu agrandis ton magasin de ce côté. Ça peut être dans une demeure. La famille peut-être s'agrandit et la maison devient petite d'une façon ou d'une autre. C'est comme quand on attend souvent un bébé dans une famille. Et quand le couple était seul, il se contentait peut-être d'un salon ou d'une chambre. Voilà le bébé qui arrive. Deux choses. Soit on débarrasse la chambre des choses superflues parce qu'il faut aménager un espace pour le berceau du bébé. Soit on se dit non, la véranda était trop grande, on va diminuer la véranda ou supprimer la véranda et on va monter un mur pour pouvoir ajouter une chambre là-bas pour agrandir notre maison, mais en restant au même endroit. Soit on va gagner du terrain sur la cour d'une façon ou d'une autre pour pouvoir optimaliser les espaces que l'on a déjà. Ça, c'est une notion d'agrandissement. Et ça s'apparente à certaines activités ou à certaines missions ou à certaines évolutions, espèces d'évolution avec l'Éternel ou de façon physique dans l'œuvre de ses mains. Ça, c'est clair. L'agrandissement, agrandir aussi, c'est dans l'agrandissement de sa zone d'influence. Parce que j'ai dit qu'on allait aborder ça sur le plan à la fois spirituel, sur le plan à la fois physique. L'agrandissement peut être purement, vraiment physique ou alors avoir une notion qui est beaucoup plus dématérielle. Par exemple, quelqu'un dont l'activité est dans d'être professeur, par exemple, j'ai pris cet exemple-là en disant, voilà, quelqu'un qui, depuis peut-être des aptitudes, il est professeur, il est sorti de l'école comme tout le monde, et puis il a toujours donné des cours dans les classes, pas d'examen, parce que c'est cool, quoi. On n'est pas stressé à apprendre à préparer les examens, etc. Il donne depuis 10 ans des cours dans les mêmes classes, 4e, 5e, 4e, voilà, il ne bouge pas de là, alors qu'il a des aptitudes, des compétences pour donner des cours au second et même dans les classes d'examen. Mais il ne l'a jamais fait. Il se contente du peu qu'il a. Et le Seigneur lui dit, élargis l'espace de ta tente. Parce que le Seigneur veut le voir plus loin, plus encadré. Ça suppose que là, il doit élargir l'espace de son espace, sa zone d'influence. Ça veut dire qu'il va devoir s'engager pour faire valoir ses compétences à des niveaux ou pour des classes qui demandent beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de travail, mais beaucoup plus de primes aussi, beaucoup plus de un salaire beaucoup plus élevé aussi, un impact beaucoup plus élevé aussi dans la vie des gens. Donc il va falloir que non, il s'engage pour pouvoir rencontrer le proviseur, négocier ou accepter ce qui lui est proposé pour donner maintenant des cours en classe de première, en classe de terminale. C'est important. Ça peut aussi se voir comme ça. Dans cette zone, il est dans une phase d'un élargissement qui est un agrandissement de la zone d'influence, de sa zone d'impact. Le deuxième aspect, la deuxième forme d'élargissement, c'est l'augmentation. Élargir peut dire augmenter aussi. Mais l'augmentation, c'est comme son mot, son terme est clair, c'est un élargissement dans le nombre. C'est une vue quantitative de ce qui est. Et c'est aussi une vue quantitative de ce que tu possèdes déjà. On n'augmente pas quelque chose qu'on n'a pas. On a et ensuite on l'augmente. Donc il y a comme une similitude dans la nature de ce qui va être augmenté. C'est comme une opération mathématique. J'avais 1, j'ajoute 1, j'ai 2. Ça, c'est une augmentation. C'est l'opposé de la soustraction. C'est une augmentation de ce que l'on a. Et l'augmentation, moi, j'ai envie d'attirer l'attention de Saint-Esprit, me met ça à cœur pendant que je parle, que l'augmentation, ce n'est pas une multiplication. Quand on multiplie, c'est vrai, on a beaucoup. Mais la nature des choses qu'on multiplie peut être différente. Mais dans l'augmentation, on reste dans une même logique de ce que l'on est en train de faire. C'est très important. On a quand on est dans une phase d'augmentation, on peut arriver à une phase où son élargissement est de, j'ai un magasin ici, il me faut 2 magasins, 3 magasins, 4 magasins. Ça suppose que tu puisses ajouter les magasins, mais ça ne se localise plus au même endroit. C'est différent de l'agrandissement dont on parlait tout à l'heure. Tu as un magasin ici et tu décides d'avoir un magasin dans une autre ville.
ou un magasin dans un autre lieu, même de la même ville. Tu as un enfant, tu entreprends d'avoir deux enfants, c'est toujours une augmentation. Tu as une voiture, tu vas en avoir deux, tu fais tes entreprises, je sais pas moi, de location de voiture, de taxi ou ce que tu veux, et tu avais deux taxis, tu vas avoir quatre. Ça, c'est une augmentation. Et c'est un nombre. Tu as même un ministère, parce que l'agrandissement en ce qui concerne le ministère en tant que tel, ou des assemblées, des églises, c'est, comme je disais, c'est un espace qui augmente. Tu as déjà suffisamment de membres, mais vous êtes allé trois. Là, il faut augmenter. Il faut agrandir, mais en restant au même endroit. Maintenant, il faut augmenter. C'est lorsque les espaces sont même disponibles, mais il y a peu d'âmes. Et là, il faut, ou bien il y a des âmes, beaucoup même plus, mais il faut aller. Le Seigneur te dit, élargis l'espace de ta tombe. Si c'est dans le sens de l'augmentation, ça veut dire le nombre d'âmes va augmenter. Et c'est valable pour beaucoup de choses comme ça, mais il faut garder en esprit que l'augmentation a un aspect quantitatif. Amen. Le troisième mot, c'est l'extension ou l'expansion. Le troisième mot, c'est ça. Et l'extension ou l'expansion introduit la notion de frontière, introduit la notion de délimitation. Et élargissement en tant qu'expansion fait appel à aller au-delà des limites de maintenant. Aller au-delà des lignes de séparation qui sont établies. Quand on parle de frontière, ce n'est pas que la frontière physique. Ça veut dire que quelle que soit l'activité ou le secteur ou le domaine dans lequel ça se trouve, il y a comme des règles qui définissent quelque chose et qui mettent un certain cadre dans ce que tu es en train de faire. Et à faire une extension, c'est aller au-delà de ces limites-là, d'une façon ou d'une autre. Contrairement à l'agrandissement, l'extension fait référence aux espaces qui, initialement, ne sont pas à toi. On a dit tout à l'heure que tu agrandis quelque chose que tu as déjà. Et quand tu agrandis, tu ne quittes pas le lieu où tu étais, ou ce que tu étais en train de faire. Tu restes dans le même domaine, tu restes dans le même area, le même cadre. Avec l'expansion, là, l'extension, non. Tu sors du cadre. Tu sors des limites. Et tu t'élargis sur des domaines qui n'étaient pas à toi, mais qui vont devenir tiens. Tu t'élargis sur des domaines qui n'étaient pas forcément réservés, qui n'étaient pas sous ton contrôle, qui étaient même des lieux de réserve, ou même des lieux occupés par d'autres. Mais que dans l'ordre de l'élargissement, tu es amené à occuper, à posséder. Tu es amené à faire tien. Ceci augure quoi? Et ça veut dire aussi, pour être différent de l'agrandissement, ça peut même, il n'y a ni limite, il n'y a pas de limite de forcément de rester dans la même nature. Non. L'extension à ce moment peut introduire tout. On peut passer d'un domaine à un autre. Quelqu'un qui fait une extension, quelque chose qui fait une expansion, on a pris l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a un magasin ou des gens qui ont des taxis et tout. Il peut s'étendre ou s'expandre, si on peut dire ça comme ça, en quittant peut-être des taxis et en rentrant dans un autre secteur d'activité. Ça lui fera deux activités, mais qu'il mènera de front. Ou même trois qu'il mènera de front. Quelqu'un qui a des boutiques ou pas, il pouvait avoir une boutique de vêtements et il décide d'augmenter en nombre, mais en changeant ce qu'il fait et devenir un quincailler tout en gardant la boutique de vêtements. Il peut même décider d'être d'avoir un ministère, d'être en train de faire un ministère, une œuvre particulière et commencer une entreprise de bâtiment. Donc, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de rester dans le même domaine, ce n'est pas ça. Ça veut dire vraiment, ça renverse les barrières, ça renverse les règles définies, ça renverse les règles établies. L'expansion bouscule tout ça. Et ça augure quoi quand on dit que tu vas t'étendre sur quelque chose que tu ne possèdes pas? T'étendre sur quelque chose qui n'était pas à toi d'abord. Ça augure qu'il y a quelque part une opposition à vaincre. Il y a un esprit de conquête. Tu dois observer, chercher, etc. Et tu dois mener une opération de conquête. Ça augure qu'il y aura un aspect de confrontation. L'agrandissement, quand on parlait tout à l'heure, j'ai pris l'exemple en disant que l'agrandissement, si tu as un magasin et que tu veux prendre le magasin d'à côté, ou tu es sur un terrain et que tu veux agrandir, ça appelle à la négociation. Ça appelle à aller voir tel pour dire qu'il est possible que je prenne tel magasin, etc. Donc, vous allez vous entendre et tout. Et finalement, tu vas le posséder. Je vous assure, dans l'extension, ça n'appelle pas la négociation de la même façon que dans l'agrandissement, non. Ça augure véritablement qu'il va avoir des forces contraires qu'il faudra vaincre. Je ne suis pas en train de dire ici que dans l'expansion ou dans l'extension, c'est une question de force hein, ou de violation, ni d'illégalité, non. Nous sommes dans le royaume, et le royaume de Père est basé sur sa justice et son équité. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons nous étendre, nous allons avoir une extension, un élargissement à la commande de Dieu, mais en respectant les règles du royaume. Cela signifie donc quoi? Parce que le royaume est le royaume des cieux, comme nous dit la parole. C'est justice, paix et joie. Donc, toute l'action, même de confrontation que tu vas mener, doit intégrer ces éléments d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de supplication, certes, mais on utilise les moyens légaux. Parce que ici, ça fait appel plutôt à quoi? Ça fait appel à avoir de la sagesse, de l'intelligence et des stratégies. Dans le cadre de l'extension, c'est de ça qu'il s'agit. Et dans l'expansion, ce qui était juste régional, grandit, dépasse les frontières et devient national. Ce qui était national devient continental. Ce qui était continental devient mondial. Donc, dans l'expansion aussi, on ne fait plus les choses que localement, on fait des choses internationalement. Ça veut dire que ce qui était fait localement trouvera le moyen de franchir les frontières et de devenir international. Par stratégie, par sagesse ou par intelligence, par opportunité, une opportunité saisie. Et c'est ça qui est mis en place là dans l'expansion. Mais tout cela, c'est de l'élargissement. Élargir l'espace de ton temps. Ce qui est important à comprendre, c'est que le quatrième mot qui traduit le mot élargi, dans la définition hébraïque du mot élargi, qui est rechab, le mot occupation. Le mot occupation est dans cette définition-là de façon claire aussi. Parce que ce soit l'agrandissement, que ce soit l'augmentation, que ce soit l'expansion, que ce soit être étendu, il faut occuper les espaces après. On se fait de nouveaux espaces, on élargit, mais on occupe. On occupe les lieux conquis, on occupe les lieux acquis, et on va regarder le mot occupation sous deux volets. On va regarder le mot occupation, c'est la définition simple du Larousse, parce que ça amène des notions qui m'ont semblé importantes de noter. Le Larousse définit le mot « occupation » par un verbe. Il dit « occuper », c'est s'emparer d'eux. « Occuper », c'est s'emparer d'eux. Quand on s'empare de quelque chose, ce n'est pas qu'on prend, c'est qu'on prend avec force. Donc, ça nous ramène à l'esprit de conquête. On prend avec force. On prend même, quelque part, avec la personne qui perd ça, n'est pas guégué, quoi. N'a pas consenti vraiment 100% à prendre, mais il est quelque peu contraint, obligé, fort de le donner. Soit par opportunité, soit parce qu'on était bon négociateur. Moi, je dis encore que quand les gens mettent leur entreprise je prends cet exemple-là, mettent leurs entreprises à la bourse, c'est qu'ils sont quelque peu soumis aux lois de la bourse. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent être victimes d'une OPA. Ils peuvent être victimes d'une opération comme ça de prise. Quelqu'un peut venir avec plus d'argent et commencer une action en vue de posséder cette entreprise-là. Si la personne qui a cette entreprise ne fait point garde et n'a pas pris des précautions pour être vigilant lui-même, est-ce qu'on va dire que ça peut se faire violemment sans que l'autre personne veuille céder son entreprise? Mais hélas, qui se trouve contrainte de céder son entreprise parce que l'autre a utilisé plus de jugeotes, peut-être plus d'argent, peut-être plus de stratégie. Il a été plus dans le monde, on va dire, malin. Mais Dieu nous demande à nous d'avoir la sagesse, sa sagesse et son intelligence pour faire les choses selon le royaume. Mais n'empêche qu'au final, on peut acquérir des choses qui font mal de leur côté, qui ne sont pas de l'été. C'est l'esprit. C'est pour ça qu'on définit le mot occuper comme s'emparer d'eux. Ça nous fait, ça amène la notion de l'envahissement, le peuplement, l'occupation. Et si nous le verrons plus tard, faire entrer la notion de l'envahissement et le peuplement. Et c'est un protocole de Père. Quand il nous parle plus tard de ce qu'il va faire, de comment il fait les choses, il nous parle d'envahissement, il nous parle de peuplement. Nous le verrons plus tard. Et c'est un protocole divin dans l'occupation. Pour définir le mot occupation, le Larousse aussi utilise le verbe consacrer à. Ce à quoi on se consacre est une occupation. Nous savons que pour nous, le mot consacrer est un mot sacré. Et c'est vrai. Quand nous, dans le royaume, on dit occupe un lieu, nous ne pouvons pas occuper des lieux, occuper des territoires sans les consacrer à qui ? À Jésus. Sans les consacrer, sans les couvrir dans le sang de Jésus. Nous, du monde. Si les gens du monde savent comment occuper leur lieu, à combien de fois nous, les enfants de Dieu. Donc, quand on acquiert, quand on élargit, il y a une dimension d'occupation qui est aussi une notion de consécration. L'occupation des lieux fait référence à l'exploitation effective de cet espace-là. Donc, à la jouissance des fruits qu'il produit. Occuper aussi veut dire cela. Ça veut dire rendre productif ce lieu, c'est-à-dire exploiter ce lieu-là, lui donner vie, lui faire prendre vie, lui faire prendre, lui faire produire des fruits, pour qu'il puisse produire des fruits. C'est ça aussi, avoir l'acte d'occupation. Donc, ça ne s'arrête pas seulement à être présent là, mais ça s'occupe si c'est une entreprise, nouvelle entreprise, c'est aussi pour l'amener à une notion de rentabilité. Si c'est un ministère qui devient plus grand, plus large, c'est aussi trouver le moyen de lui donner une forme d'émulation, de fonctionnalité véritablement, pour pouvoir multiplier tout cette fois-ci. Multiplier dans le service, dans les actions d'évangélisation, le nombre de cultes, le nombre... Tout cela, ça permet de donner vie, de donner une productivité comme ça à ce que l'on doit occuper, à ce que l'on a élargi. Occuper, c'est planter une bannière. À l'exemple des Américains, quand ils sont allés sur la Lune, la première des choses, ils ont planté le drapeau américain. Et ils ont défini que toute la Lune leur appartenait, parce qu'ils étaient les premiers à mettre le pied là-bas. Ils occupent comme ça un lieu qui n'a pas de propriétaire, un lieu qui n'a pas de maître. Ils arrivent, ils en font leur propriété. Ils se définissent comme les maîtres des lieux. Et ils plantent leur bannière. Nous, les enfants de Dieu, quand on occupe, la première des choses spirituellement parlant, c'est qu'un lieu occupé, on doit planter une bannière, la bannière de Christ. Occuper un lieu, c'est ça. Christ doit être vu. Occuper, c'est aussi marquer ces nouvelles délimitations, marquer ces nouvelles frontières. Ceci, ça nous fait appel à la notion, au principe du bornage de terrain. Quand tu acquiers un nouveau terrain, la première chose que même légalement, officiellement, on te demande de faire, c'est de borner le terrain. Tant que le terrain n'est pas borné, tu as toujours peur que l'on peut te le piquer, quelqu'un peut prendre des espaces sur ton terrain. C'est aussi valable spirituellement parlant. Il faut marquer, faire un marquage, qu'on en ait des délimitations de ce que l'on occupe de l'élargissement. Et il faut que, même quand on a élargi dans un certain domaine, que l'on redimensionne cela et que l'on prenne conscience des véritables limites qui se sont redessinées. Pour ne pas soi-même prendre le risque de laisser un peu en abandon, en jachère, des espaces qu'on a pourtant gagnés, mais qu'on oublie d'occuper, qu'on oublie de faire valoir. Occuper, c'est remplir les chambres. Occuper, la troisième leçon, c'est remplir les chambres. Remplir les chambres de biens précieux, on parlait de faire valoir, on parlait de fructifier, etc. Occuper, c'est aussi ça, remplir ces chambres-là. Proverbe 24, son verset 3, nous dit quelque chose d'intéressant dans l'ensemble. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Oui, c'est par l'intelligence qu'elle s'affirme. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. Donc remplir les chambres ici, de faire appel à la science. Quand on élargit, n'est-ce pas? On doit pouvoir remplir les chambres des biens précieux, c'est-à-dire la productivité de la richesse qui doit en être dégagée, doit faire appel aux connaissances, parce que la science et la connaissance, c'est les savoirs acquis, c'est la réflexion que l'on a, c'est l'apprentissage, ce sont les techniques, c'est l'expérience, l'habilité que l'on peut détacher, l'aptitude que l'on peut, toutes les aptitudes, les compétences, les pratiques, les instructions. Là qu'on est dans la science, on n'est pas dans la prière, on n'est pas dans la supplication, on n'est pas dans le jeûne, on est dans la science. Parce que sans la science, il est compliqué de transformer des talents en mine. C'est par la science que ces choses sont faites. Et c'est important de noter ça aussi, pour remplir les chambres, pour occuper. Et le mot et l'occupation fait partie de l'élargissement. Donc, un élargissement commence et s'achève quand ça produit. Alléluia. Donc, si nous avons compris l'ordre que l'Éternel donne à son peuple en cette saison, en cette décade, c'est d'élargir l'espace. Élargissez vos espaces. Nous avons vu c'était quoi les espaces. Ça peut prendre plusieurs formes. Et nous avons vu les quatre niveaux d'élargissement. Et en fonction des uns des autres, surtout, c'est une question de progression. Il y en a qui ont peut-être déjà agrandi, augmenté, et qui se sont étendus, qui sont en train d'occuper. Il y en a peut-être qui commencent, qui sont seulement au niveau de l'agrandissement ou de l'augmentation. Il y en a qui sont peut-être sur l'expansion. Mais c'est des niveaux. Mais l'ensemble, dans tout ce processus-là, suit les mêmes règles. Alléluia. Il faut comprendre les choses de cette façon-là. Qu'on soit dans un stade ou à un autre, une chose est claire. Le processus reste le même. Les motivations restent les mêmes. Les promesses de paix restent les mêmes pour chacun, pour pouvoir avancer et évoluer. Donc, élargir l'espace. Dieu veut dire à chacun donc, sors des sentiers battus. Sors des pensées habituelles. Sors de l'ordinaire. Sors de la routine, du train-train quotidien, là. Cesse de faire des choses par coutume, par habitude. Ce que tu faisais avant, c'était bien, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il est temps de passer à un autre niveau, de passer à autre chose, de passer à une autre vitesse, passer à un autre palier, élargir l'espace. Cette instruction nous parle de vision. Elle nous parle de vision, de la nécessité de regarder et de voir les choses avec les yeux nouveaux. Il nous parle de la nécessité de regarder et de voir avec des yeux sans écailles, sans voile. De voir avec des yeux de l'Esprit de Dieu. Parce que quand Dieu veut amener quelqu'un à une autre dimension, la première chose que moi j'ai remarqué dans la Bible, regarde et vois. Dieu veut que tu vois comme lui il voit. Quand Jésus a stoppé Paul sur la route de Damas, la première chose, sa lumière l'a aveuglé. Et il a fallu qu'Ananias aille lui enlever les écailles, les yeux. il a fallu qu'il ôte le voile des yeux d'Abraham en le séparant de Lot pour qu'il puisse voir. Il a fait pareil pour Zacharie. Il dit à Abraham à Genèse 13, 14, Genèse 13, verset 14, non, Genèse 13, pardon, verset 23, il dit à Abraham, je vais lire le verset, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Regarde. Il le dit à Zacharie aussi, dans Zacharie 5, verset 5. L'ange qui est venu parler à Zacharie, l'ange qui parlait avec moi s'avança, c'est Zacharie qui témoigne, et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort de là. Lève les yeux et regarde ce qui sort de là. Amen. Quand il a voulu ramener Jacob de chez Laban, quand l'Éternel a estimé que le temps de formation de Jacob était arrivé, était achevé de chez Laban, et qu'il lui a dit maintenant, qu'il s'apprêtait à lui dire de sortir, il voulait le bénir chez Laban avant qu'il ne parte de chez Laban, parce que Laban l'avait tellement spolié qu'il risquait de sortir de chez Laban, même plus pauvre qu'il était arrivé. Dans Genèse 31, 12, la parole nous dit, il dit donc à Jacob, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Donc je vais te donner une stratégie pour que tu puisses tirer profit de cela. Alléluia. Dieu veut que nous levons les yeux et que nous voyons. Mon frère, ma sœur, Dieu nous dit en cette saison, vois tes projets comme possibles. L'Éternel a mis des choses en chacun de nous. L'Éternel a un dépôt. L'Éternel a donné à chacun une mission. L'Éternel a rempli. Peut-être tu connais la tienne, peut-être pas encore. Peut-être tu as déjà commencé la tienne, mon frère, ma sœur. Dieu veut qu'en cette saison, tu passes à un autre stade avec toi. Dieu veut que tu vois les projets qu'il a mis en toi comme étant des projets possibles. Dieu veut que tu vois ces projets-là grands, que tu les vois au-delà des frontières, que tu les vois au-delà de ton compte en banque, de tes possibilités financières. Dieu veut que tu les vois au-delà de ta propre personne. Dieu veut que tu vois ces projets. Dieu veut que tu vois vraiment tout ce qu'il a mis en toi, tout ce à quoi tu penses, tout ce dont il t'a chargé, que tu les vois au-delà de ta pensée. Dieu veut que tu les vois au-delà des règles des hommes, au-delà des lois des hommes. Dieu veut que tu les vois grands. Regarde-les, pense à ses projets. Il t'a déposé quelque chose et il veut que tu aies l'âge que tu attends. Et si Dieu nous parle d'audace, Dieu nous parle de zèle, Dieu veut nous dire, lève-toi, viens au-devant de la scène. Moi, quand j'ai entendu cela, j'ai médité sur cela. Dieu m'avait déjà chargé de beaucoup de choses, de projets pendant tout mon parcours dans le désert, pendant toute la traversée, pendant tout. Dieu me nourrissait des choses. J'avais déjà préparé des choses. Vous voyez, je regardais ce qu'il me demandait de faire et je disais, ah. Mais de mes propres yeux, je voyais vraiment tout comme encore flou, comme barricadé. Je n'en voyais pas debout. Quand j'ai reçu ce message et que j'avais déjà commencé à acter, mais dans l'ombre, vraiment dans le secret et tout. Et je reçois ce message comme, il est temps maintenant que les choses se passent à la lumière. Il est temps maintenant que les choses se passent sur le devant de la scène. Lève-toi et viens au devant de la scène. Lève-toi, élargis, prends des initiatives, pose des actions, suscite les réactions des gens, prends des risques, ose avec le Saint-Esprit. Oh, lève-toi, va à la conquête de nouvelles possessions, de nouveaux territoires, de nouvelles fonctions. Lève-toi, mon frère, ma soeur, aie de l'ambition. Si tu travailles quelque part, moi je vois souvent des personnes, même dans nos assemblées, même dans les églises, qui sont assis. On parle de croissance, on parle de promotion, on parle de machin. Mais tu vas leur demander, toi, tu ambitionnes quoi? On parle de promotion. Tu travailles dans une entreprise salariale. Quand tu travailles dans une entreprise où tu es salarié, qu'est-ce que tu peux avoir comme attitude d'élargissement dans ce cadre-là, si ce n'est qu'une promotion? Peut-être une augmentation de salaire. On sait très bien que les augmentations de salaire, ça suit une certaine règle et que c'est rare qu'on déroge. Mais une promotion, ambitionnes-tu une promotion? Ambitionnes-tu de changer d'entreprise dans une carrière professionnelle? Toutes ces choses, il faut que ce soit monté en toi, mon frère, ma soeur. Quand il parle d'audace, j'ai envie de dire, le Seigneur veut que tu puisses faire ces choses. Parce qu'en réalité, pourquoi regarder et se poser des questions? Moi, c'est ce que moi je me suis dit en tout cas. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais moi je ne suis que le temple. Je ne suis que l'instrument. Si l'Éternel me dit ça, c'est parce que ce temple, oui, qui a été sanctifié par le Christ, doit pouvoir bouger, se mouvoir physiquement pour amener Jésus au lieu de l'isthémie, pour amener Jésus sur le lieu où il doit se manifester, par la puissance du Saint-Esprit, qui doit transporter l'Esprit en lui, parce que c'est son temple. Dans tous les cas, il y a des choses que l'Éternel te dit, fais juste. L'Esprit de Dieu va prendre le relais. C'est le travail de Dieu. Il va l'accomplir lorsqu'il s'agit de ses missions. Donc ne te soucie pas si ça va marcher ou pas, si ça va être bien vu ou pas, si ça va être bien ou pas. Fais ce que Dieu te dit de faire, parce que c'est plus son problème que le tien. Et il va opérer lui-même par la puissance de son esprit. Il va prendre le relais. Parce qu'il s'agit de sa gloire. Il veille sur sa gloire lui-même, parce qu'il ne la partage avec personne. Il y veille, il est son propre maître d'œuvre. Donc il y a des choses que nous avons à faire, mais qui ne sont même pas les plus importantes. Car l'Esprit de Dieu lui-même est là pour accomplir les choses. Donc quand l'Éternel nous dit, élargis l'espace de ta tente, il dit, ose le faire avec moi. Aie le zèle de faire cela avec moi. Aie l'audace de te lever de faire cela. Alléluia. J'ai médité à ça, j'ai travaillé. Moi, je me suis dit, mais Saint-Esprit de Dieu, moi, mon rôle, c'est seulement de t'inviter, de t'appeler à moi et de me soumettre à toi. La réussite de ça, l'appréciation de ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Oh, mes frères, ça m'a délivré. Ça m'a permis, ça m'a rechargé, ça m'a permis de dire, mais tout ce que je ressens, tout ce que l'Éternel me dit de faire, je n'ai pas à regarder ça grand, disant, waouh, ce qu'il me dit là, moi, je dois ça tellement haut. C'est moi qui vais faire ça. S'il pense qu'il peut faire ça au travers de toi, il va le faire. Amen. Il y a une autre chose que j'ai constatée, c'est que l'instruction de Dieu ne se fait pas à l'aveuglette. Parce que ce que je viens d'expliquer là, ce n'est pas pour dire que bon, c'est tout à fait au hasard. Non. Parce que ce que nous ressentons, ce que nous recevons, c'est lui qui le dépose en nous. C'est lui qui le fait maturer jusqu'à terme. Donc quand vient le moment où il te dit « élargis l'espace de ta tente », il sait à propos de quoi il veut que tu élargis l'espace de ta tente. Il l'a déjà fait grandir en toi. Il a fait monter ces choses en toi. Déjà indiqué des destinations nouvelles, des œuvres nouvelles, qu'il te fait percevoir comme des nouveaux challenges. Il t'a fait déjà traverser ça. C'est inéluctable. Il ne commence pas comme ça le premier jour, les top, tu ne sais pas, non. Donc quand il commence à te dire, élargis l'espace de ta tente, l'Esprit de Dieu te guide pour voir, tu vois, c'est ce quoi tu travailles, dans tout ce quoi tu crois, ce que j'avais déposé en toi, ce que tu ressentais dessus, va dans ce sens-là. Ce n'est pas à la vraie, ce n'est pas à tâtons. Et plus l'Esprit te presse, plus toi-même, tu discernes le chemin qu'il veut que tu empruntes. Il discerne le chemin qu'il veut que tu prennes. Toi-même, tu discernes ça. Pourquoi? Parce que c'est, comme je disais, des choses qu'il a déjà mis en toi et sur lesquelles tu as déjà travaillé, médité, préparé, prié, mais qui te semblaient encore loin de la réalisation. Donc, quand il arrive et te dit, maintenant, élargis l'espace de ta tente, c'est que lui et son esprit et Jésus, ils sont prêts. Et il te dit, lève-toi, parce que c'est ton corps que nous allons utiliser. C'est tes mains que nous allons utiliser. C'est ta bouche que nous allons utiliser. Lève-toi. Bah, il nous a donné la vie d'animation pour nous lever. Donc, on se lève. Saint-Esprit de Dieu, me voici. Agis, utilise. C'est ça que nous mettons en prière tous les jours. Alléluia. Dans la saison d'élargissement correspond au temps de l'enfantement. Je vais répéter ça. La saison d'élargissement correspond au temps de l'enfantement. C'est pour ça que l'Éternel donne cet ordre, qu'il reçoit cet ordre, comme une instruction véritable. C'est que le temps de l'enfantement est arrivé en nous. Quel que soit le stade de l'élargissement dont il s'agit, le temps de l'enfantement est arrivé. Et le temps de l'enfantement vient après le temps de la conception et le temps de la gestation. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça maintenant. Mais il y a un temps pour concevoir les idées de Dieu, le temps pour concevoir les projets de Dieu en soi. Il y a le temps de maturation de ces projets, le temps de gestation de ces projets en soi. C'est ça que j'expliquais tantôt. Il y a un instant là. Et vient le temps de l'enfantement. Et à ce moment, tu reçois des instructions qui sont en corrélation. Et l'instruction de l'élargissement est en corrélation avec le temps de l'enfantement. Amen. Ah. Merci Seigneur.